Les passions de Camille avec Camille Chai.
Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on explore deux univers très différents l'un de l'autre. On va faire un petit tour au musée avec Charlotte Jacob Maguire et on va aussi aller sur la route avec le camionneur Simon Demmel. C'est tout de suite à Les Passions de Camille. Alors, j'ai le plaisir de recevoir ma première invitée aujourd'hui. C'est mon amie et une ex-collègue, Charlotte Jacob Maguire. Bienvenue.
Bonjour, ça me fait plaisir, Camille.
C'est un plaisir partagé, Charlotte. Alors, Charlotte, tu as 29 ans.
Exactement.
Tu habites à Montréal.
Mm-hmm.
Et tu es coordonnatrice de l'accessibilité au Musée d'art contemporain de Montréal.
Oui, exactement.
J'ai envie de dire, tu travailles sur l'accessibilité. On va évidemment avoir le temps de parler du musée tout à l'heure, mais il y a une raison pour laquelle tu t'intéresses particulièrement à l'accessibilité. Est-ce que tu peux me parler de ton handicap?
Oui, bon, d'accord. Alors, en fait, mon handicap est vraiment arrivé subitement à l'âge de 22 ans lorsque j'ai eu deux AVC. Un petit et un énorme. Mmh. Et donc, c'est vraiment là que ça a commencé, mon intérêt pour le handicap, pour l'accessibilité, et puis voilà.
Et là, tu nous parles d'AVC, tu en as eu ou vécu deux. Est-ce que tu peux nous décrire, toi, dans tes mots, c'est quoi un AVC?
Oh, un AVC, bon, ben, dans le fond, j'ai un très, très scientifique, là. Mm-hmm. Dans le fond, c'est provoqué par l'interruption de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça, une interruption sanguine, ben, en fait, c'est que, ben, ça dépend de tout le monde, là, en fait. Mais moi, dans mon cas, ça a créé, une incapacité de parler pendant un certain moment. Ça a complètement paralysé mon côté droit. Puis après ça, c'est revenu tranquillement. C'est pas revenu parfaitement, mais donc c'est ça. Pour moi, ça a été ça.
Donc c'est un accident cardiovasculaire.
En fait, c'est un accident vasculaire cérébral.
Ah oui, effectivement. Oui. Merci de me reprendre. Là, tu me dis que tu as perdu la parole, mais évidemment, je veux dire, on t'entend parler maintenant,
non.
Tu parles très, très bien, mais il y a eu un réapprentissage complet?
Complet, oui. Je parlais anglais et français avant, et puis lorsque je me suis en quelque sorte réveillée suite à mon AVC, je ne pouvais plus parler ni anglais ni français. Pour moi, j'étais quand même une personne qui avait la capacité verbomotrice assez développée, exactement. Ça a été difficile, mais voilà, ça fait quand même un bon nombre d'années, là.
Oui, ça fait 7 ans maintenant.
Oui, exactement.
Et en combien de temps tu as pu retrouver la parole?
La parole, je dirais que c'est revenu progressivement. Je dirais que les trois premiers mois, on voyait, on entendait certainement qu'il y avait une difficulté.
Okay.
Puis par la suite, c'est revenu très progressivement. Puis je dirais j'ai continué à avoir des professionnels pendant 2 ans par la suite.
D'accord. Donc là, t'as dû aller dans un centre de réadaptation où tu as été suivi pendant tout ce temps-là.
Oui, exactement.
Est-ce que tu connais la cause? Parce que, j'imagine que, en fait, la cause doit être unique pour chaque personne.
Oui, oui, exactement.
Est-ce que tu as fait des recherches à ce niveau-là?
Pas moi, mais mon neurologue, oui. Dans le fond, il a fait toute une batterie de tests et tout est revenu négatif. Et donc, selon mon neurologue, la cause la plus probable, ça serait la pilule contraceptive.
Mmh.
Puis lorsque j'ai appris ça, ben là, j'étais comme « Oh, mon Dieu! D'abord, la pilule contraceptive peut causer un AVC, d'accord? »
Oui.
Et donc, oui, ça a été un choc.
Mais j'imagine que ça doit être un pourcentage rare, le cancer à cause de la pilule?
Oui. Ça dépend du genre de pilule. C'est première génération, deuxième génération, troisième génération, mais ça peut varier de 1 sur 100 000 personnes ou 1 sur 10 000 personnes. Donc, voilà.
Quand même. Et toi, est-ce que tu sais si un AVC, ça peut être, c'est génétique?
Non, dans le fond, tous mes tests sont revenus négatifs, donc la génétique avait rien à voir là-dedans.
Mais pour d'autres personnes, ça peut être le cas, ça dépend à chaque
fois. Oui, définitivement.
Comment ça s'est... En fait, je suis tellement curieuse, je te pose énormément de questions techniques, mais je me dis, autant pour les personnes qui nous écoutent, qui ont eux aussi eu un AVC ou qui veulent en apprendre sur le sujet, comment ça se manifeste concrètement?
Ah, comment ça se manifeste? Ben, ça se manifeste. En fait, moi, ça a été une manifestation un peu bizarre, là. Mais si vous avez de la difficulté, surtout d'un côté, si vous n'arrivez pas à parler, à vous rappeler de par exemple, du numéro de téléphone de votre meilleure amie, là, il y a... aller à l'hôpital.
Donc, c'est des signes précurseurs.
Exactement.
Et toi, je me souviens quand tu m'en avais parlé il y a quelques temps, c'était une journée normale, évidemment, comme toutes les autres.
Puis quand
tu dis que ça arrive subitement, j'imagine que, je veux dire, il y a un certain malaise physique aussi qui se manifeste.
Oui, exactement, oui. Moi, si je me rappelle bien, j'allais préparer un chili végétarien. j'ai eu très, 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 très mal à la tête. C'était le pire mal de tête là que
j'ai jamais eu.
Oui, exactement. Puis c'est ça. Mais par la suite, je me suis relevée. J'étais très faible, mais je me disais ça doit être une migraine comme une autre.
Mm-hmm.
Puis dans le fond, c'était pas une migraine comme une autre. C'était un AVC.
Eh oui, rien de moins. Et là, parce que t'es en couple depuis 11 ans, Charlotte.
Oui.
C'est magnifique.
Oui.
Et ton copain était avec toi à ce moment-là?
Oui, exactement.
C'est lui qui a appelé les urgences?
Oui, exactement.
Comment lui, il l'a vécu?
Oh, mon Dieu. D'abord, c'était un peu l'incompréhension.
Oui, j'imagine.
Puis, je ne veux pas parler pour lui, sauf que il disait que... Il voulait simplement revoir sa Charlotte. J'ai trouvé ça très beau, mais très émouvant en même temps, parce que sa Charlotte, lorsque je me suis éveillée de mon AVC, c'est que j'étais pas exactement la même. Donc, je pouvais plus parler, je pouvais plus bouger, mais il m'a pris la main. Je pense que c'était quelques jours après mon AVC, puis je l'ai serré contre moi. Puis là, il a dit « Ah, Charlotte est là! » Donc, c'est ça.
Le premier signe d'amour qui ne ment pas.
Oui, c'est ça, exactement.
Et par rapport à ta famille aussi, parce que je veux dire, tu me dis que c'est un choc non seulement pour toi en premier, pour tes proches, de l'apprendre à ta famille, comment ça s'est passé pour toi?
Ben dans le fond, je l'ai pas appris à ma famille, c'est plutôt ma famille qui m'a vue là.
Oui.
Mais c'est certain que ça a été un choc parce que je m'apprêtais à partir en Angleterre pour étudier, faire ma maîtrise, et donc il y avait quand même un deuil qui s'était déjà fait, juste de me voir quitter la maison. Mais là, c'était oh mon Dieu, comme c'est quoi un AVC? Ils étaient un peu perdus dans tout ça.
J'imagine.
Oui.
Est-ce que tu sais s'il y a un moyen, je veux dire, là, tu nous racontes ton histoire, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça ou c'est un peu une fatalité?
Oh, oh là là. Ben, moi, j'aurais pas dû prendre la pilule.
Okay,
Mais
je veux
vraiment,
dire, c'est dur, Charlotte, de ça. Oui. Qui sait, en fait, qu'une pilule contraceptive peut créer un AVC?
Oui. Ben, en fait, il est écrit dans le petit feuillet, là, ils disent bien, c'est une chance sur tant de mille personnes, puis voilà. Sauf qu'on pense toujours qu'on ne sera pas la personne.
Ah ben non, c'est jamais nous.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
Puis à part ça, sinon, est-ce que tu as des recommandations aujourd'hui ou même à des gens, des amis que tu parles? Puis sans vouloir, je trouve que c'est important de le dire, il ne faut pas partir en peur ou quoi que ce soit, mais c'est...
Oui. Mais en fait, moi, parce que je sais pas si... je ne veux pas te donner vraiment de trucs sur comment éviter un AVC. Mm-hmm.
Reconnaître les signes, peut-être, j'imagine.
Oui, certainement. Mais en fait, moi, c'est davantage pour les gens qui se sentent un peu mal dans leur peau ou des affaires comme ça. Mm-hmm. En fait, c'est vraiment de joindre une communauté ou un groupe. Mm-hmm. Puis pour moi, ça a été lorsque je me suis jointe au groupe, en fait au comité, au sous-comité personnes handicapées et contre le capacitisme. Et vraiment, ça a été une ouverture d'esprit. Puis vraiment, je pense que tout le monde devrait joindre un groupe parce qu'une communauté, ça s'achète pas. Puis c'est vraiment extraordinaire.
C'est une magnifique ressource. Puis parlant de ressources, on va faire une petite pause. On va se ressourcer en écoutant la bonne musique. On revient tout de suite après.
Once in a while, I've got a story, ain't got no mother. Let the bad guy win every once in a while. When it go round in circles, when it fly high like a bird up in the sky. When it go round in circles, when it fly high. Around. I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna let the music move me around. When it go round in circles, when it fly high like a bird up in the sky. When it go round in circles, when it fly high like a bird. I ain't got no melody.
my friend. When I go around and circle, when I fly high like a bird up in the sky, when I go around in circle, when I fly high.
Quelle bonne chanson, on en voudrait encore. Oui. C'était Will It Go Round in Circles de Billy Presto. Et Charlotte, c'est une chanson que tu nous as suggérée parce que apparemment tu l'aimes beaucoup.
Oui, exactement.
Qu'est-ce qui t'inspire cette chanson?
Oh mon Dieu, ben en fait, je sais même pas, mais c'est l'entrain.
Oui.
Oui, vraiment là, oui.
Je suis d'accord avec toi. Mais la musique, parce que là, on bascule dans le côté artistique et passionné de toi, Charlotte. J'ai envie que tu me parles du musée, parce que sachant que tu es coordonnatrice de l'accessibilité au Musée d'art contemporain de Montréal, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller travailler là-bas?
Ben, dans le fond, j'ai une maîtrise en anthropologie des musées. Mm-hmm. Donc, ça combinait vraiment ma passion, vraiment une passion que j'ai pour les musées et ma passion pour l'accessibilité et le côté un peu plus activiste, mm-hmm. Qui était contre le capacitisme.
C'est quoi le capacitisme?
Là
je te lance dans des grandes discussions.
Mais dans le fond, le capacitisme, c'est un peu comme le racisme, mais plutôt que d'être contre une race en particulier, ben, dans le fond, c'est lorsque les gens sont ou ont des préjugés sur les personnes handicapées.
Mm-hmm. Intéressant. Donc toi, ça te tient à cœur.
Ça me tient à cœur.
Oui. Mais de défendre, en fait, la cause des personnes handicapées, sachant que, ben oui, toi, de par ton AVC, tu en fais maintenant partie.
Exactement.
Et là, par rapport au musée, donc quel est ton mandat ou ton rôle? En fait, quels sont les principaux obstacles qu'une personne handicapée peut rencontrer quand elle va au musée?
Lorsqu'il est ouvert.
Donc, on commence par le début.
Oui, c'est ça, exactement. Et dans le fond, j'ai tracé quatre points d'accès. Puis dans le fond, c'est l'accès au bâtiment et au programme, l'accès à la consultation, puis l'accès au discours à propos de personnes en situation de handicap, donc à propos d'eux, puis l'accès à la prise de décision pour les personnes en situation de handicap. Donc, j'essaie toujours de retenir ces quatre points d'accès-là pour définir en quelque sorte mon emploi.
Mm-hmm.
Puis c'est ça.
Donc, est-ce qu'il y a beaucoup à faire?
Oui! Oui, il y a beaucoup à faire, mais je suis entourée par des gens au travail vraiment qui sont incroyable. En fait, je veux pas leur jeter des fleurs là, mais mon patron et ma patronne, donc c'est Leslie Johnson et Luc Guimet, sont vraiment des personnes incroyablement humaines et qui ont l'écoute très développée là.
Ça, c'est important.
C'est très très important, surtout dans un milieu où est-ce que c'est quand même un peu précurseur ce que je fais, parce que il y a à ce que je sache, là, personne au Québec qui a ce titre-là. Mmh. Donc, je suis comme, OK, je me sens choyée d'avoir ce poste. Mmh. Et en même temps, je me dis, c'est une très lourde responsabilité pour, ben, c'est ça, pour tout le monde au Québec qui est en situation de handicap.
Ah oui, quand même. Je suis curieuse, hein, parce que bon, là, oui, évidemment, comme tu dis, le musée est fermé à cause de la pandémie. Est-ce que le musée ou des expositions sont accessibles de façon virtuelle ou d'une autre façon?
Oui. En fait, il y a certains ateliers de création qui sont disponibles sur le site web du MAC, mais on a très, très, très hâte de réouvrir.
Ça, j'en doute pas. Donc, je pense que tu dois être en télétravail comme beaucoup.
Exactement.
Est-ce que tu as une exposition préférée?
Oh là là, une expo. Au MAC, je dois dire que l'exposition sur Leonard Cohen, vraiment là, c'était incroyable.
Donc c'est à voir. Est-ce qu'on peut la revoir?
Oh, si vous alliez à Copenhague.
Ah. Donc il faut aimer voyager aussi.
Oui, exactement.
Mais est-ce que Charlotte, t'as dû en visiter d'autres des musées à travers le monde?
Oui. Puis dès mon jeune âge aussi, là. J'ai visité plusieurs musées. Donc en Inde, en France, aux États-Unis.
Puis un coup de cœur parmi ceux-là, ce serait lequel?
Oh là 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 là. Le coup de cœur. Le musée de l'Holocauste à Washington, c'était vrai. Je dois dire que c'était totalement accessible.
Ah.
C'était un musée touchant. Puis je sais pas si c'est le bon terme à utiliser là, mais c'était c'était le musée, tout le musée était un tout. Le musée de l'Holocauste à Washington, je dirais que ça a été un de mes coups de cœur.
Bon, ben on garde ça en tête.
Exactement.
Il y a une question que j'aime beaucoup poser à mes invités en général, c'est est-ce que tu es d'accord et à l'aise avec le mot handicap? Est-ce que tu te définis quand tu te présentes à des personnes ou qu'on parle de toi? Est-ce que tu es à l'aise qu'on emploie le mot handicap?
Totalement.
Pourquoi?
Dans le fond, c'est pas bizarre. Appelons un chat.
Oui.
Donc, c'est que dans le fond, on doit se réapproprier le mot parce que. Puis dans le fond, c'est ça, appeler une personne handicapée, c'est de dire qu'elle a une différence, mais il faut pas cacher qu'on est une personne handicapée et même que on est fier d'être déjà handicapé.
Oui.
Donc oui, voilà.
Mais c'est pour ça aussi hein, qu'on s'entend si bien toi et moi, Charlotte. On a été d'accord dès le début sur cette notion-là. Puis tu disais toi-même que c'est très libérateur au final de se réapproprier ce mot-là.
Exactement.
On a parlé de tes passions, évidemment, pour le musée. Est-ce que tu as d'autres passions?
Ah oui, la lecture, puis le dessin. Dans le fond, aussi, la marche, puis la marche tranquille.
Oui.
vraiment, c'est vraiment bien.
Parce que je trouve ça intéressant, tu parles de marche, tu nous as dit donc que ton côté droit de ton corps a été plus ou moins paralysé.
Oui.
Donc, par rapport à ta main, à quel point est-ce que tu peux, par exemple, tenir un verre d'eau dans ta main droite ou c'est impossible?
C'est impossible.
Impossible?
Puis, dans le fond, j'étais droitière avant mon AVC. J'ai réappris à dessiner et à écrire avec la main gauche.
Et qu'est-ce qu'il y en est de ton pied droit? En fait, pour donner une idée à nos auditeurs, à quoi ressemble ta démarche?
Ma démarche, elle est pas parfaite là, mais donc je peux pas courir, mais je peux faire des longues promenades par exemple.
Bon, ben au moins, l'important, c'est que tu puisses profiter de l'extérieur.
Exactement.
Donc, on va se concentrer sur ce que tu as plutôt que ce que tu
n'as
pas. Et je me souviens, j'ai envie de le partager à nos auditeurs parce qu'on a déjà eu une discussion, toi et moi, sur l'énergie physique. Parce que, bon, ce n'est pas la première fois qu'on en parle à l'émission d'ailleurs, mais quand on a un handicap, en général, on compense beaucoup et on est toujours en surutilisation de notre corps et de nos membres. Et j'aimais beaucoup l'image dont tu m'avais parlé par rapport à l'énergie. Tu me parlais de petites cuillères.
Oui, exactement.
Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta vision?
Ah oui, dans le fond, on a simplement, c'est pas moi qui est arrivé avec cette idée-là, mais dans le fond, c'est que la personne qui est arrivée avec cette idée-là, c'est qu'elle disait, on a simplement, en tant que personne handicapée, un nombre limité de cuillères. Et dans le fond, un déjeuner, une cuillère. En fait, se rendre au bureau, c'est une cuillère.
Donc, une action égale à une cuillère.
Une action, exactement. Et si on te demande d'en faire plus, ben, c'est qu'au final, tu n'as plus de cuillère et que tu es vanné. Et donc, c'est ça. Donc, lorsque tu n'en as plus, ben, tu n'en as plus à donner. Puis parfois, ben, pour les autres, ça va pour les personnes qui sont non handicapées essentiellement, mais c'est qu'elles vont pouvoir emprunter des cuillères à d'autres journées, mais en tant que personne handicapée, pour certains, on ne peut pas faire ça.
Que c'est beau. En fait, c'est la belle notion d'apprendre à reconnaître ses limites et c'est une façon de l'exprimer à nos proches ou à nos amis.
Oui, 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 exactement. Puis je dirais que la fatigue, c'est un handicap qui est plus invisible. Puis que les autres ne voient pas nécessairement, mais la fatigue, elle est présente. Et donc, vraiment, la fatigue, c'est un handicap ou la fatigue chronique, mais on la voit pas justement. Donc, un handicap invisible, c'est aussi un handicap.
Ben, merci, Charlotte, de le mentionner parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui est sensibilisé à cette cause-là et je trouve que c'est important. C'est notre devoir d'en parler. Merci infiniment, Charlotte. Pour moi, tu es une grande dame qui fait beaucoup de différence dans notre monde. J'ai de la chance de te connaître et nos auditeurs de t'avoir entendu aussi. Merci infiniment, ma chère Charlotte Jacob Maguire.
Ça me fait plaisir.
À la prochaine.
À la prochaine.
Restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Simon Desmeules. Attachez votre ceinture.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, Camille Chaille s'y présente avec vous encore pour la prochaine demi-heure, mais je ne suis jamais seule, vous l'aurez bien compris. Je suis maintenant en compagnie de Simon Desmeules. Bonjour Simon.
Bonjour.
Simon, tu es le premier homme paraplégique à obtenir ton permis pour devenir camionneur. C'est vrai ça?
Oui. Ben, de qu'est-ce que j'ai su au travers de plusieurs sources? C'est pour le CFTR, qui est en collaboration avec le CFTC, qui sont les deux grosses écoles de camionnage au Québec. C'est la première fois qu'ils dealaient avec ça. Ils ont déjà eu d'autres personnalités, d'autres personnes qui ont eu différents handicaps.
Mm-hmm.
Mais dans ce cas-ci, c'est la première fois une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant.
Quand même, donc j'imagine que pour toi, t'es dans plein de démarches et des processus parce que je veux justement qu'on en parle, mais avant tout, j'aimerais que tu me parles de ta situation de handicap. Comment est-ce que tu es devenu paraplégique?
Moi, c'est un accident de la route. J'ai manqué une courbe en quatre roues.
Okay.
Et le quatre roues, j'ai manqué la courbe, le quatre roues s'est planté dans le fossé et j'ai été éjecté. Puis c'est une roche qui m'a arrêté brusquement.
Mm.
Donc, j'ai eu une fracture de la moelle épinière à la hauteur T3, T4. Là, c'est entre les omoplates. Et puis, c'est une fracture de la moelle avec une compression. Donc, ça a fini là.
Ah oui, quand même.
C'est plus simple que ça.
Oui, si on peut dire ça comme ça.
Ouais.
Donc, ça t'est arrivé à l'âge de 23 ans, sachant que tu en as 31 aujourd'hui.
Oui, moi, c'est arrivé le 2 juin 2012, 6 mois avant ma fin du monde à moi.
Mm-hmm.
Puis, c'est arrivé à ce moment-là. J'étais étudiant en foresterie dans le coin de la Suc. Donc, on s'entend que ça a été tout un changement de vie parce que j'ai pas pu continuer mon parcours académique parce que, justement, la foresterie puis mobilité réduite, c'est deux choses incompatibles, on va se le dire. Mm-hmm. Donc, il a fallu que je fasse un changement de carrière à partir de ce moment-là.
Mais comment ça se passe? Je veux dire, t'es un jeune homme, j'ai envie de dire, tu vis ta vie à fond la caisse. T'aimes les bolides, t'aimes certainement la vitesse.
Oui, j'aimais beaucoup la vitesse. Aujourd'hui, je suis un peu plus prudent, je suis un peu plus, pas dire peureux, mais plus conscient du danger, du risque. Je sais très bien qu'est-ce que ça peut apporter. C'est une fracture de la moelle épinière, mais ça aurait été un trauma crânien, ça aurait été un autre type d'accident qui aurait pu être aussi sévère. T'sais, aujourd'hui, quand on repense juste au film Intouchable, le gars est quand même devenu quadriplégique. Fait que le monde ne pense pas à ça, mais un banal accident peut hypothéquer ta vie. Donc, on prend pas la mesure de ça, mais maintenant que je suis dans cette situation-là, je le vois.
Oui.
Donc,
quand on dit faut le voir pour le croire, mais là, c'est faut le vivre pour le croire. Mais j'imagine que, parce que je pense aux jeunes, tu sais, les jeunes garçons, mais même les jeunes filles, qui, à un certain âge, se sentent un peu invincibles. Peut-être qu'on a même tous eu un petit moment dans notre vie où on se sentait invincible. Est-ce que t'as pas un message pour eux? Tu viens un peu déjà d'en parler, mais...
Ben c'est drôle, moi je donne des conférences à l'université à des infirmières. Et à chaque année, je fais l'université de Rimouski puis l'université Sherbrooke. Puis j'ai eu un appel une fois, on m'avait invité à l'Université du Québec à Sept-Îles et j'ai eu une infirmière qui m'avait dit la chose suivante. J'ai deux gars, 12 et 14 ans, qu'est-ce que tu leur dirais?
Voilà.
Et j'ai dit, je ne sais pas ce que je leur dirais, là, mais je leur montrais un cathéter urinaire.
Parlons-en.
J'ai dit, un gars, c'est plate, là, mais ça fonctionne de la manière suivante. Il faut que tu épingles par le paquet pour qu'ils comprennent le message.
D'accord.
Donc, montre-leur un cathéter urinaire, explique-leur comment ça fonctionne, puis après, parle-leur de Cialis, Viagra et compagnie. Habituellement, le message passe beaucoup mieux. Le message doit passer par là.
Ben, l'image, elle est assez frappante et claire, si je puis dire.
Oui, effectivement. Et là, elle, ça l'a fait bien rire, mais j'ai dit, ben oui, si un gars, ça pense avec sa queue, ben c'est ça. Ça doit, le message doit commencer aussi par là.
Ah ben, c'est une façon de que ce soit concret pour eux. Mais puisque tu nous en parles, encore une fois, t'avais 23 ans. Quand tu dis c'est ta fin du monde à toi, tout change, même ton rapport avec les femmes, ta propre sexualité. C'est tu repars à zéro?
Ben oui, tu repars à zéro parce que on va se dire honnêtement, toute notre sexualité, on la pense toujours de la manière suivante avec le bas du corps. On fonctionne avec ces organes génitaux-là. Là, la sensation, elle est extrêmement diminué, même des fois, on sent rien. Notre plaisir n'est plus le même. Donc, retrouver sa sexualité, c'est tout un défi en soi parce qu'on ne pense pas comme ça. On ne la voit pas comme ça. On doit la travailler autrement. On doit la redécouvrir. Puis, on ne doit pas juste la redécouvrir seule. On doit la redécouvrir avec une autre personne. Parce que cette autre personne-là, faut que tu lui expliques, tu lui donnes un mini-cours de biologie, tu lui expliques, ben là, il y a ça, mais là, il y a ça, mais là, s'il y a une panne là, puis là, je vais prendre la médication, puis il y a ci, puis il y a ça. Fait que l'autre personne doit prendre conscience de cette réalité-là, puis qu'elle embarque dans un univers qui est carrément pas habituel pour elle aussi, là.
Mais non, mais est-ce que ça a été un obstacle, ça, pour toi?
Ben, pas nécessairement un obstacle, mais c'est quelque chose qui frappe surtout la virilité, parce que les gars, on va se le dire, on a toujours on s'imagine un peu comme des acteurs porno, je m'explique. On voit la porno, puis on a une image d'homme qui doit être dur, puis baiser pendant une demi-heure, une heure, puis on doit...
Et les stéréotypes.
L'énorme stéréotype qui affecte en passant beaucoup d'hommes.
Mm-hmm.
Et là, tu tombes dans une autre catégorie de la personne avec un handicap qui a telle problématique, qui ne peut pas faire les 12 000 positions qu'il y a vues sur Internet, qui ne peut pas faire ça, qui ne peut pas faire ça. Fait que sa virilité en prend un coup, son estime de soi en prend un coup, son image y en prend un coup. Fait qu'il y a beaucoup de choses que ça l'affecte. Fait que je vais t'avouer que les rapports, dans ces moments-là, faut que l'autre personne soit extrêmement compréhensible, puis qu'elle compose un peu avec ça, mais ça l'empêche pas que pour les deux, ben, ta partenaire peut trouver son plaisir, elle peut être comblée. On faut juste trouver son plaisir autrement, ce qui est quand même pas une mince tâche non plus, là, faut se l'avouer.
Non, mais j'ai l'impression dans ce que tu nous dis, c'est la communication qui est très importante.
Oui. Oui, c'est sûr que la communication, c'est importante, mais en même temps, c'est quelque chose qui prend du temps. Fait que même si tu en parles, tu n'as pas ça du premier coup, même si tu en parles, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, c'est quand même quelque chose. Fait que tu sais, la fin du monde, tu sais, moi, j'avais 23 ans, là, la fleur de l'âge de l'homme, avec toute ta testostérone qui est dans le pic de la puberté, on s'entend, là, tes sens sont ultra développés, t'es en pleine forme, t'as envie de jouir de la vie. Là, ouch,
ça met un frein.
L'hôpital, tu te retrouves avec tel handicap, avec telle situation. Non, ça a été quelque chose de très lourd, puis qui affecte même 8 ans plus tard, il y a des jours, ça l'affecte. Là. Donc, c'est pas quelque chose de si simple et de si banal que ça, là.
C'est un travail à faire au quotidien, jour après jour.
Oui.
Mais là, tu es en couple en ce moment.
Oui, ça va faire 3 ans et demi, bientôt 4, que je suis en couple.
Magnifique.
Avec la même personne. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle.
Ah ben oui, bravo.
Ben oui, mais merci. Oh, il y a des jours où c'est pas toujours facile, mais comme on dit, il faut qu'il y ait de la communication. C'est le secret dans tous les cas.
Exactement. Et là, Simon, toi, t'es originaire de Salaberry de Valleyfield et tu habites en ce moment à Farnham.
Oui.
Toi aussi.
Donc, gros changement, puis il y avait deux raisons pourquoi cette petite ville-là. Un, fallait qu'on soit à 40 minutes maximum de la job à ma blonde.
Mm-hmm.
Et elle travaille à Brossard, donc c'était ça.
Okay.
Et on avait besoin, ben ma blonde aussi cherchait une place où si elle allait faire de la randonnée et des activités de plein air. On est à côté de l'Estrie, des cantons de l'Est, on est vraiment bien situé. Puis on avait besoin d'une place où on nous allait dire oui pour nos chiens.
D'accord.
On a trouvé une maison à Farnham et voilà, elle dit oui pour les deux chiens, parfait, on l'a pris, on n'a même pas posé de questions.
Génial. Vous avez trouvé votre petit coin de paradis.
Oui, oui. Ben effectivement, ça va bien ici. On est bien heureux de ce qu'on a. Là, on a la chance d'avoir une grande cour. On a la chance d'être à la campagne.
Mm-hmm.
Donc.
Et là, tu me parles de randonnée. Des randonnées, ça se fait bien en fauteuil roulant?
Ça dépend où. Ça dépend comment. Ça dépend de... Ouais, il faut...
S'adapter.
Tout est une question de mesure. Je veux t'avouer qu'il y a 3 semaines, j'étais à Charlevoix. J'ai fait, les Hautes-Gorges à Charlevoix?
Oui.
Ça a été un 6,2 à monter, 6,2 à redescendre.
Wow!
Ça m'a pris 5h30, à peu près à 2. Puis il y a une place, il y a un 2 km de montée plus difficile. Ma copine était là, puis elle me poussait en arrière.
OK.
Et la descente, il fallait qu'elle me retienne parce que c'était assez à pic.
J'allais te dire, la descente doit être plus facile, mais non, il faut freiner quand
non,
même.
Non, non. Hey, t'as de la roche, t'as des courbes, t'as des places que... C'est un peu plus épeurant que d'autres, là, mais non, ça a été... Mais dis que le sentier il est large et il est plat, malgré la descente, je veux dire, il n'y avait pas de racines, il n'y avait pas de gros obstacles, ça se faisait bien, là. Mais sinon, non, il faut qu'on trouve des pistes cyclables, qu'on trouve des sentiers, qu'on trouve... Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont juste une canne ou qui ont une légère faiblesse dans une jambe ou qui reviennent d'une opération à un bassin ou whatever, et ils doivent juste trouver des sentiers qui sont juste plus accommodants sans besoin de faire d'escalade.
Oui.
Donc, on va chercher ce genre d'endroit-là en se disant on a besoin de quelque chose de plus qu'une simple piste cyclable sur le plat et l'asphalte.
Et donc, toi, en Estrie, en l'occurrence, c'est une bonne adresse, un bon endroit pour faire ça?
Oui, on a trouvé quand même quelques endroits assez agréables. Que ce soit dans le coin de North Attlee, là, on s'en va à Ayerscliff en fin de semaine.
Ouais.
dans le coin de Sherbrooke ou dans le coin de Harford, Bromont. Il y a quelques sentiers, quelques endroits qui sont assez accessibles si tu mets l'effort. On va s'entendre. Puis tu mets de l'eau dans ton vin, puis tu dis à ta blonde, moi, j'ai besoin d'une pousse ici parce que là, le prochain 10 mètres, j'avancerai pas.
Il va être intense. Puis en hiver aussi, j'imagine que c'est quelque chose. Toutes les personnes à qui je parle, qui sont en fauteuil roulant, me disent toutes, l'hiver, on va le dire, c'est un calvaire en fauteuil roulant. Tu confirmes?
Oui, ben, moi, je le dis toujours à la blague en me disant, à partir de 2 pouces de neige, là, tu te mets à sacrer parce que ça devient tout est compliqué. Tous les déplacements deviennent plus ardus. Tu vois plus ton sol parce qu'il faut avoir de neige dedans.
Mais oui.
Fait que si tu y a un trou, s'il y a une roche, si tu le vois pas, tu le sens pas, ben là, bang, t'arrêtes, puis c'est ça.
Là, tu disais que t'as de la neige qui se ramasse sur ton siège, t'as les gants tout mouillés.
Voilà, t'as les gants mouillés, les pantalons mouillés, là, tout devient mouillé. Et là, en même temps, il faut que tu déneiges ton entrée, là, ce qui devient un autre défi. Maintenant que je pense que j'appelle mon déneigeur cette année.
Bon.
Merci. Mais tu sais, la rampe d'accès, ben oui, il faut que j'aille neige, je le fais quand il y a des tempêtes, puis en même temps, t'es comme OK, faut que je m'arrange autrement, puis fait que c'est là que tu te rends compte que les muscles abdominaux sont vachement importants.
C'est intéressant ça. Je te propose qu'on fasse une petite pause, on va aller écouter une chanson, puis on va en reparler tout de suite après.
C'est bon.
À tout de suite.
I got a gun in my hand, but the gun won't cock. My finger's on the trigger, but that trigger seems locked. I can't stop staring at the tick-tock clock. And even if I could, I would never give up. With a vest on my chest, a bullet in my lung, I can't believe I'm dying with my song unsung. And if and when I die, won't you bury me alone? Cause I'll never get to heaven if I'm singing this song. If there was something wrong, would you be all so strong? Would you do what it takes to move this whole life along? I like to think it would, you know, I like to think it would. But I can guarantee that what you see is not reality. Never thought you'd make some point of making it a boy. She said it's easy, but in the end you have no choice. And you know, it's going just the way that it goes. Is that it right, man? That is just the way that it goes. Like forever, and the days that seem like forever. But forever is never enough. I can sing a song from a two world below. Don't have to be long, but I don't want to get disturbed. I was a kid who never cared about the little things. Don't even bother, cause I'm tired and I'm sick of it. And every time she makes a point, I make a kind of boy. She said it's easy, but in the end, you have no choice. And you know, it's only just the way that it goes. Is that it right, man? That's just the way that it goes.
Even when I die, I'll be buried alone. Cause I'll never get to heaven if I'm singing this song. Oh, So tell me, friend, how's it gonna end? When the shit goes down and there's no one left around to get you back, you'll crack, smile, and agree with everything they say. They try to tell you that it's all okay, but it's not in your shot, you're bleeding pretty bad. And you can't stop thinking about the things you never had, like a wife and a kid and the things you never did. Run around living a life that's empty in the end, my friend.
C'était le groupe très dynamique de Streetlight Manifesto et sa chanson Point Counterpoint. Simon Demel, c'est une chanson que t'aimes écouter?
Oui, je l'adore. Mais en gros, les trois albums qu'ils ont faits sont pas mal tous similaires à ce type de chanson-là. Donc, t'écoutes ça, t'es de bonne humeur, même si les paroles sont assez dark à bien des égards. La musique est entraînante. Je les ai vus en show, je pense, une douzaine de fois.
Wow.
Je suis allé les voir au Rockfest à Montebello. Je suis allé les voir à bien des festivals, à bien des événements. Puis c'est une heure de pur bonheur où que même si t'es cloué à un fauteuil, tu réussis à bouger, tu réussis à danser.
Ah, et j'aime entendre ça.
Cas, j'allais faire, à bien des couches, j'ai fait du body surfing à leur show, malgré le fauteuil. Donc, toujours bien du plaisir à aller les voir.
Magnifique. Est-ce que c'est le genre de chanson aussi que tu écoutes quand tu es sur la route?
Oui, beaucoup. J'écoute beaucoup de ska, j'écoute beaucoup ce type de musique-là, style les Real Big Fish ou les Planet Smashers.
Mm-hmm.
C'est vraiment le style de musique qui met de bonne humeur, que tu peux pas... Il y a un groupe justement de musique qui s'appelle Planet Smashers, qui ont fait une chanson qui s'appelle Surfing in Tofino. Et Tofino est une ville en Colombie-Britannique, une ville de surf. Et ma blonde est allée faire du surf l'été passé. On est allés tous les deux ensemble dans l'Ouest canadien. On a passé deux semaines là-bas. Donc, ça, c'était une nouvelle expérience pour moi de prendre l'avion puis voyager en fauteuil, qui est quand même quelque chose qu'il faut s'adapter, puis il faut se virer sur un système puis trouver des solutions à tout et n'importe quoi. Donc,
qu'est-ce qui a été plus dur pour toi quand tu as pris l'avion pour la première fois avec ton fauteuil, justement?
Le plus dur, c'est de devoir dealer avec les compagnies aériennes qui sont comme... Ben là, on va te transférer sur une chaise, puis on va te pousser, puis on va t'aider à faire ci, puis t'es comme, ah, alors, tassez-vous, laissez-moi faire. Ah, puis là, ils sont comme, ah oui, mais c'est une question d'assurance, on doit t'aider, puis là, t'es comme, déjà que t'es en fauteuil, là, tu te sens encore plus handicapé, puis là, t'es, ah, c'est limite si on ne te traite pas comme un enfant, mais ah, monsieur Desmeules, vous savez, là, c'est beau.
Mais on sent ton envie d'autonomie, puis qui est tout à fait légitime et normale. Mais j'aime bien parce que tu me parles, je veux dire, c'est très technique, c'est très mécanique aussi, j'ai envie de dire. Mais là, je veux absolument que tu nous parles les obstacles et les défis que tu as eus quand tu as dû faire adapter le camion dans lequel tu as pu avoir ton permis, passer tes cours en tant que camionneur. Est-ce que tu peux me raconter un peu quelle a été cette aventure pour toi?
Bon, t'as-tu une heure ou deux devant toi? On va t'expliquer ça. OK, le plus gros défi, ça a été de, un, trouver un ergothérapeute, la première chose. Puis, quand t'appelles dans les CMR, les centres de réadaptation publics, et que tu parles à des ergos spécialisés en véhicule, ils te disent toutes la même chose. Ça n'existe pas, ça se fait pas, on n'a pas de programme pour ça, on peut pas t'aider. Prochain appel, et là, c'est là le problème. Donc, il a fallu que j'aille au privé. J'ai trouvé un ergothérapeute. Je l'ai appelé. J'explique mon projet. Et sa réponse a été, hey, j'aime le défi. Je vais t'aider, moi. Mm. OK. Fait que là, on voit qu'il y a déjà une grande différence entre le public et le privé. Le privé, il se dit, OK, il y a un défi, c'est le fun. Et le public, tu sais, regarde, il y a des règles, il y a des normes, on a ça, mais non, ça ne marchera pas.
OK.
C'est deux univers différents. Ensuite, ça a été d'expliquer le projet à mon médecin parce qu'il y a un côté médical que tu dois confirmer avec la SAC. La SAC, qui eux ont dans leur liste de médicale de personnes qui ne peuvent pas conduire un véhicule lourd, il y a plusieurs, à peu près toutes les maladies sont là. Si t'es aveugle, tu peux pas, si tu as ça.
Restriction.
Et il y avait si vous avez un handicap physique, vous ne pouvez pas conduire un véhicule de classe 1, à moins d'être accompagné.
Ah.
Moi, j'ai fait, on va faire du team. That's it.
Et donc, t'as trouvé quelqu'un qui veut t'accompagner?
Ouais, j'ai trouvé quelqu'un. Wow. Et quand on dit que le monde est petit, ça m'a fait bien rire parce que j'ai fait ma vidéo il y a bientôt 2 ans. Ou que je suis devant un camion CFT1, j'explique le projet et tout. Et il y a un gars qui m'écrit, il dit, hey, moi, je serais intéressé, tu cherches un partner, je travaille pour telle compagnie et tout. Il dit, moi, je serais prêt à embarquer avec toi. Et j'ai appris que sa fille travaille avec ma blonde dans le même hôpital.
Le monde est
à Brossard. Mais tu sais, c'est une petite clinique de 100 personnes.
Ah, wow.
Et là, j'ai fait comme, ah, ma fille travaille avec ta blonde. Et là, ma blonde me dit, ouais, il y a un monsieur qui va t'écrire, puis c'est le père de ma collègue. Et je suis là comme, tu sais, quand le monde est petit, ben c'est ça. C'est ça. Donc, ça a été comme un premier content qui a fait comme, regarde, je pense les chemins devaient se croiser quelque part.
Oui.
Et voilà.
Oui. Puis tu me parles d'assurance aussi. Ça met des bâtons dans les roues, là, ça, c'est le cas de le dire? Ou...
Ouais. Ben là, pour les assurances, pour les je pourrais avoir mon propre camion, ça serait quasiment impossible parce que les assurances coûteraient tellement trop cher.
OK.
Mais pour les grosses compagnies, à date, ça passerait. Les premiers retours d'appel, ça fonctionne. Mais là, il est là, présentement, le défi, ça aussi.
Mm-hmm.
Donc, là, j'ai trouvé mon partner, médecin, SAC, ergothérapeute, tout fonctionne. On a amené le projet devant le CFTR. Et puis, on avait le dossier. On a dit, voici ce qu'on veut faire, voici ce qu'on a, voici ce que ça prend comme équipement. Voici les règles à SAC, voici ce que je vais faire, voici ça. Et le CFTR a fait comme, bon, mais le dossier est déjà monté, tu sais où tu t'en vas, OK, on voit ton entrain, tu connais le domaine, OK, c'est beau, ben regarde, on est une école publique, on n'a pas le choix, on va adapter un camion, et voilà.
Wow, et ça a coûté combien adapter ce fameux camion?
Pièces, équipement, le temps, toute la patente, à peu près 15 000.
Mmh. Quand même, c'est tout un budget.
Oui, mais ça prend même pas un an, puis
ils l'ont
payé en impôts.
Oui, voilà.
Ils l'ont payé en retour d'impôts, tu l'as payé. Fait que, tu sais, j'ai des amis qui, comme camionneurs, payent 600-700 par semaine en impôts. Fait que moi, je suis en train de me dire, OK, en 6 mois, c'est quasiment tourné dans l'impôt du gouvernement. Fait que, tu sais, c'est pas.
Non, c'est pas si mal.
C'est pas si mal. Donc, le projet, il était là. Et puis, l'école a fait ça. L'école, le problème a été commander des pièces parce que le premier équipement qu'on voulait, il venait des États-Unis. Il y a eu un 6 mois de délai d'attente. Puis, au travers de tout ça, juste avant de commander les pièces, il faut que tu fasses les appels d'offres, les soumissions,
parce
que c'est public.
Ouais.
Et là, c'est long. Et là, on connaissait la compagnie qui faisait ça, mais on n'est pas du privé. Fait que l'école devait faire des appels d'offres. Puis là, il devait étudier le projet, puis il devait voir
complexe.
Ça, puis il devait voir ça. Puis le bon camion, puis là, l'école, il y avait ça, puis là, il fallait respecter ça, puis les normes, ici et ça. Puis...
Mais j'imagine, Simon, que malgré tout ça, bon, c'est des détails techniques, tu vas finir par passer au travers. En tout cas, je te le souhaite le plus rapidement possible. Mais tu as choisi d'être camionneur parce que, comme tu le disais, pour toi, être assis dans un bureau, c'est pas stimulant pour toi. Pour toi, d'être sur la route, ça doit être un énorme sentiment de liberté.
Ben oui. Moi, quand j'ai eu mon permis de conduire auto, au début, c'était mes parents qui me faisaient des livres là, quand je sortais de l'hôpital.
Oui.
Quand j'ai cherché mon permis auto, mes parents ont dit « Prends ton champ, puis va-t'en. »
C'est ta vie.
Fais ce que tu veux. Et voilà ce sentiment-là de « Hey, je vais aller voir des amis, je vais m'en vais à Québec, je reviens demain. » Et voilà, c'est ça.
Mais c'est comme si ça te met sur le même niveau que tout le monde parce que c'est un moyen de déplacement. Alors là, t'es plus limité par ton handicap.
Ben oui, t'es plus limité. Puis le problème, c'est moi, quand j'étais à l'hôpital, d'une journée, tu dis, hey, à soir, on va aller voir un spectacle. Hey, viens-t'en, Camille, on va aller voir un show, on va aller au Théâtre Saint-Denis. Fait que là, t'appelles le transport adapté, mais là, faut que tu appelles 24 à 48 heures à l'avance, faut qu'ils cédulent une personne, puis là, que faut que ça rentre dans les plages horaires des travailleurs, parce qu'à partir de 10 heures, ils font plus. T'es là comme, OK, c'est parce que la Terre arrête pas de tourner à partir de 10 heures. Il y a une prolongation, puis il y a un extrait, une chanson de plus, ou hey, l'humoriste sur scène, il dit, hey, je vais prendre 5 minutes, j'osais avec vous, puis oh, on va aller faire signer des autographes, on va aller prendre une bière après, mais c'est parce que on peut sortir, on peut suivre.
Mais bien
donc,
sûr.
Donc, dès que tu tournes de tour,
ça change tout.
Ça, fou, là.
Ça change
rentrer,
tout.
Ben oui, rentrer à des 2-3 heures le matin, après aller prendre un verre avec des amis, puis sortir, puis aller faire ça, puis aller faire une game de poule, puis aller, hey, on va aller dans le bois, aller faire un feu. Mais tu l'as, cette liberté-là, elle est là qui est le fun.
Mais Simon, je te la souhaite pour très longtemps encore. C'est déjà la fin de l'entrevue, t'imagines, ça passe tellement vite, en bonne compagnie.
Oui.
Et ben écoute, merci infiniment, Simon, de nous avoir fait un peu découvrir ce merveilleux monde, malgré tout, des camionneurs. Je te souhaite d'aller loin et de faire beaucoup de routes.
Ben oui, moi aussi, je le souhaite.
Merci, Simon. Et merci à vous tous de nous écouter. N'oubliez pas le site canalm.vusezvoix.com pour écouter les émissions. Je remercie toute l'équipe des Passions de Camille et je vous dis à la prochaine.